Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. L'été 2022 a été une excellente saison. Nous avons atteint les objectifs fixés. Un constat au micro de Radio Orient du ministre tunisien du tourisme et de l'artisanat. Il est l'invité de rencontre à 18h30, extrait dans votre édition. La colère grandit en Iran après la mort de Mahsa Amini, cette jeune femme décédée après son arrestation par la police des mœurs. La répression des manifestations a fait au moins 5 morts. La guerre en Ukraine, Vladimir Poutine annonce une mobilisation militaire partielle de la population russe, le président russe qui accuse l'Occident d'avoir dépassé toutes les limites. La Cour européenne des droits de l'homme a récemment condamné la France pour ne pas avoir suffisamment pris en compte les demandes de rapatriement des familles de djihadistes en Syrie. Gros plan sur cette décision dans votre journal avec Maître Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme, président d'honneur de la Fédération internationale des droits humains. C'est ce mercredi la journée mondiale d'Alzheimer. 1 200 000 personnes en France sont touchées par cette maladie, sans compter leurs proches. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Wari Guermat, ancien candidat à Saint-Denis, membre de l'UDI. Il nous dira ce qu'il attend des Républicains qui tiendront leur congrès fin décembre prochain. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat tunisien souligne que 2022 est bel et bien l'année de la reprise dans ce secteur en Tunisie. Mohamed Moez Belhassine, qui s'est rendu au salon IFTM Top Reza à Paris, il est l'invité de rencontre à 18h30 ce mercredi, émission rediffusée ce jeudi à 10h. Extrait.
On est au mois de septembre, on peut tirer le bilan de la saison été 2022. Je pense que c'était une excellente saison été 2022. On a atteint les objectifs fixés pour cette saison, surtout avec une nouvelle dynamique sur le marché français, un très bon positionnement. La Tunisie est positionnée comme la quatrième destination sur le marché français. Donc la Tunisie est parmi les destinations préférées des touristes français. Et en termes de chiffres, on est revenu au résultat au niveau de 2019, donc avant pandémie, donc avant Covid-19. On a réalisé jusqu'à fin août plus de 600 000 clients clients français sont venus en Tunisie. C'est très important cette performance et surtout cette reprise de l'activité touristique sur un marché très important, un marché stratégique, un marché clé pour le tourisme tunisien. Et on voit également donc un intérêt accru des clients français et des acteurs du tourisme sur le marché français pour la destination en Tunisie. Et ils sont intéressés par d'autres facettes du tourisme tunisien, tels que le tourisme saharien, le tourisme oasien, le tourisme alternatif, le tourisme culturel, le tourisme sportif. Il y a beaucoup de choses à montrer, beaucoup de choses à faire découvrir à nos amis français en Tunisie.
C'est cette diversification du tourisme que vous entendez mettre en lumière?
Oui, justement. Donc là, en Tunisie, on a un patrimoine matériel et immatériel très très riche. La Tunisie dispose de 8 sites classés patrimoine universel de l'UNESCO, donc 7 sites archéologiques et un site naturel. Donc la Tunisie, on a plus de 30 000 sites culturels et archéologiques. En Tunisie, on a une richesse au niveau du patrimoine naturel. On a une richesse au niveau de la diversité, des paysages. On a également une richesse au niveau des ressources humaines, le capital humain, l'hospitalité tunisienne, la générosité, l'accueil. Donc tout cela fait que la Tunisie est très bien positionnée et la Tunisie a toujours été une destination préférée des Français et par tous ses attraits, tous ses atouts.
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat tunisien, invité de rencontre à 18h30 ce mercredi, émission rediffusée ce jeudi matin à 10h. Les manifestations se sont étendues en Iran après la mort de Mahsa Amini. Cette jeune femme de 22 ans avait été arrêtée dans une rue de Téhéran pour un foulard jugé mal porté, une arrestation par la police des mœurs, une police chargée de faire respecter un code vestimentaire strict pour les femmes. Des manifestants sont une nouvelle nouvelle fois sortis dans les rues d'une quinzaine de villes d'Iran. La répression des manifestations a fait au moins 5 morts. En pleine contre-offensive ukrainienne, les autorités installées par Moscou dans 4 régions d'Ukraine ont annoncé la tenue dans l'urgence du 23 au 27 septembre de référendum d'annexion par la Russie. Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation militaire partielle de la population russe. 300 000 réservistes sont concernés. La Russie a-t-il affirmé à de nombreuses armes pour répondre aux menaces occidentales qui, selon ses mots, ont dépassé toutes les limites. Le président russe a promis d'utiliser tous les moyens à sa disposition alors que son armée est en difficulté face aux forces ukrainiennes armées et formées par les pays occidentaux. Washington a dit prendre la menace de Vladimir Poutine très au sérieux. Et le président français a qualifié ce mardi soir à la tribune de l'ONU la guerre en Ukraine de retour à l'impérialisme. Emmanuel Macron s'exprimait lors de la journée d'ouverture de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. La Cour européenne des droits de l'homme a récemment condamné la France à réexaminer les demandes de rapatriement des familles de djihadistes en Syrie. Après cette décision, la France s'est dite prête à envisager de nouveaux rapatriements chaque fois que les conditions le permettront. Gros plan sur cette décision de la CEDH avec Maître Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme, président de la Fédération internationale des droits humains.
La Ligue des droits de l'homme, évidemment, se félicite, hein, et la FIDH, de cette décision attendue de la Cour européenne des droits de l'homme. C'était quasiment inéluctable, tant la France viole les principes élémentaires des droits des enfants dans cette affaire. Donc ce qu'on peut, c'est quand même regretter qu'il ait fallu attendre une condamnation de la France, qui est plutôt déshonorante, cette condamnation, par la CEDH, pour que on prenne enfin conscience au niveau gouvernemental, semble-t-il, de la nécessité d'agir pour le rapatriement de ces enfants et de leur mère. Mais c'est une décision qui, évidemment, doit être saluée. La Cour européenne des droits de l'homme considère, on ne va pas rentrer dans le détail juridique, mais que la France se comporte d'une manière quelque peu arbitraire dans cette affaire et qu'il lui appartient de réexaminer les situations des enfants et de leur mère pour prendre en particulier en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément aux engagements internationaux de la France qui a bien évidemment, comme la plupart des pays, ratifié la Convention pour les droits de l'enfant.
Cette décision va automatiquement entraîner un changement de politique de la part de Paris sur cette question ?
Alors, on peut l'espérer. La question que vous soulevez est judicieuse dans la mesure où, comme vous le savez, la Cour européenne des droits de l'homme rend des arrêts qui sont contraignants en principe, mais pour l'exécution, il n'y a pas de police existante à l'appui des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il y a une part de bonne volonté de la part des États. Mais la France, en général, fort heureusement, suit les voies qui sont ouvertes par les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc je pense que là, sauf à continuer de maintenir une politique d'abstention qui deviendrait infamante, hein, pour la France. Les autorités françaises vont être obligées de mettre en œuvre la décision de la Cour européenne des droits de l'homme et par conséquent, je pense, dans les semaines à venir, espérons-le en tout cas, à procéder à des rapatriements.
Et vous avez à plusieurs reprises souligné que ce rapatriement était un élément positif d'un point de vue sécuritaire, ce qui n'est pas toujours perçu comme tel par l'opinion publique.
Ben, je crois ce qu'il faut rappeler sans cesse, c'est que à tous égards, ce rapatriement est nécessaire. Évidemment sur le plan humain, sur le plan du respect des droits et le respect des obligations internationales de la France, hein, il faut le rappeler. Mais aussi, même si on procède avec plus de cynisme, ce qui a été le cas malheureusement des autorités françaises jusqu'à présent, l'attitude de refus de rapatriement est très contre-productive. En effet, ces enfants qui ne sont pas nés bourreaux et qui sont victimes des erreurs commises par leurs parents, s'ils se trouvent maintenus dans les camps, nourriront nécessairement une haine légitime de notre pays et seront récupérés tôt ou tard par des groupes islamistes. Donc c'est à ce niveau-là, c'est désastreux. Mais en plus, ces enfants sont avec leur mère. Les mères font toutes l'objet de mandats d'arrêt internationaux de la part de la justice française. Et les magistrats français, les juges du pôle antiterroriste, n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir les entendre à leur retour en France, ces mères qui se trouvent incarcérées, poursuivies et jugées dans un cadre judiciaire normal, respectueux des droits de la défense. Donc, à tout niveau, il est préférable, tant d'un point de vue sécuritaire que d'un point de vue humanitaire, que la France, enfin, modifie sa ligne de conduite dite au cas par cas, sous prétexte que, finalement, la raison politique, sous prétexte que l'opinion publique ne serait pas favorable au rapatriement. Mais l'opinion publique, elle est mal informée. Il suffit de faire preuve d'un peu de pédagogie et d'expliquer que de maintenir dans des camps, dans des conditions absolument épouvantables sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif, des enfants qui ont pour la plupart d'entre eux moins de 5 ou 6 ans, laisser les mères dans ces camps alors que elles ont vocation à être jugées en France, eh bien c'est la plus mauvaise solution. Ça peut très bien se faire entendre. L'opinion publique française, elle est beaucoup plus évoluée et plus éduquée qu'on ne nous le dit, à condition qu'on l'informe convenablement.
Et justement, comment l'opinion publique allemande ou encore belge a-t-elle réagi? C'est deux pays qui ont récupéré la plus grande partie de leurs, si je puis dire, djihadistes.
À ma connaissance, ça n'a pas soulevé de mouvement de foule. Ce qui pourrait choquer, et on le comprend, c'est s'il y avait un rapatriement avec les femmes, les mères qui elles sont parties, alors volontairement ou pas, parce que souvent elles étaient avec leur mari, mais parfois elles sont elles-mêmes très investies dans le djihad. Bon, ce qui serait choquant, c'est qu'elles reviennent en France et que aucune poursuite ne soit exercée à leur encontre. Là, on pourrait comprendre que cette impunité accordée à des Français ou Françaises qui sont partis hors de France avec l'idée de combattre leur propre pays, on pourrait comprendre que s'il n'y a pas de poursuite, ce serait inacceptable. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. La justice les attend. Et pour toutes les mères qui sont revenues, puisqu'il y a déjà eu quand même un certain nombre de rapatriements, très insuffisants, mais notamment il y a quelques semaines, eh bien, immédiatement, les mères sont interpellées, placées en prison et les juges d'instruction mènent leurs enquêtes jusqu'à des procès et des jugements.
Maître Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme, président d'honneur de la Fédération internationale des droits humains. C'est ce mercredi la journée mondiale d'Alzheimer. 1 200 000 personnes en France sont touchées par cette maladie, sans compter leurs proches. Une maladie neurodégénérative qui atteint la mémoire et finit par empêcher toute autonomie. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Wari Guermat, ancien candidat à Saint-Denis, membre de l'UDI. Qu'attend-il des Républicains qui tiendront leur congrès fin décembre? La réponse de Wari Guermat.
Il faut que la droite et le centre se ressentent dans les valeurs de la droite et le centre. Ça commence à m'exaspérer de courir après le FN, enfin le RN, ou les Zemmour. La droite est républicaine. La droite doit parler du travail, doit parler du pouvoir d'achat, doit parler des valeurs de droite et du centre. Si on continue à courir après l'extrême droite, on n'y arrivera pas. Déjà, une partie de l'électorat centriste et même de droite républicaine, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse étaient partis à cause de la droitisation de LR. À un moment ou l'autre, il faut parler des véritables valeurs, travail, pouvoir d'achat, Europe, c'est ça nos valeurs.
Wari Guermat, si Éric Ciotti était désigné comme le patron des Républicains, ça vous poserait un problème en tant que membre de l'UDI? Je rappelle qu'il avait dit que si Éric Zemmour et Emmanuel Macron était au second tour, il voterait pour Éric Zemmour.
C'est simple, moi, c'est Éric Ciotti est candidat et se fait élire, je couperai les ponts avec les LR. Peut-être les LR locaux parce qu'ils sont un petit peu différents, nous sommes des LR de Seine-Saint-Denis, mais au niveau national, je ne soutiendrai jamais Éric Ciotti.
C'est ce qu'a dit également Hervé Morin, président de la région Normandie, qui appartient à une autre formation centriste.
Ben, nous sommes tous unanimes, au centre, quasiment tous unanimes.
En Europe, l'extrême droite continue de progresser. Wari Germat en Suède, peut-être bientôt en Italie, avec une première ministre issue du fascisme. Comment contenir la montée de l'extrême droite en France et en Europe, vous qui êtes pro-européen?
Je vais juste faire un petit aparté. L'extrême droite a souvent percé en Europe. Elle a percé en Italie déjà, elle a percé en Autriche, elle a percé en Hongrie, elle a percé aussi en Israël. Nous sommes entourés de gouvernements amis dirigés ou co-dirigés par l'extrême droite. Maintenant, l'extrême droite, comme l'extrême gauche, vit de la peur. C'est toujours la faute de l'autre, la faute de l'étranger, la faute de l'Europe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre l'extrême droite? Je pense qu'il faut revenir à nos fondamentaux. C'est toujours quelque chose que je répète. Si on ne parle pas de travail, d'Europe, de démocratie, les gens ont peur.
Wari Germat, ancien candidat à Saint-Denis, membre de l'UDI, il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h, émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition. Un très grand merci pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 18h30 pour une émission en rencontre avec le ministre tunisien du Tourisme et de l'Artisanat. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.